Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans le débrief édition du mercredi 21 septembre. Il est 16h. Aujourd'hui, en interview dans le débrief, nous joignons à Ottawa le député de Victoria à la Chambre des communes, le néo-démocrate Murray Rankin, pour parler de réforme électorale. Restez à l'écoute, cette interview sera diffusée vers les 16h40. Pour l'heure, on laisse la voie libre à notre collaborateur Denis Lépine pour les bulletins d'infos du jour. Je vous retrouve dans 4 minutes avec la météo détaillée et on enchaînera ensuite avec le bulletin quotidien des Nations Unies. Beau programme en perspective, bonne émission à tous. Le débrief est rendu possible grâce au soutien du Fonds canadien de la radio communautaire.
Info Éducum national international, ici Denis Lépine. Bonjour, madame, messieurs. Une délégation de la Chine est arrivée au Canada et y sera jusqu'à samedi. Le premier ministre Trudeau discutera avec le premier ministre du Conseil des affaires d'État de la Chine, Lai Keqiang. Ce dernier sera non seulement à Ottawa, mais aussi à Montréal. Le premier ministre chinois va rencontrer Justin Trudeau et d'autres dignitaires et le cabinet du premier ministre a indiqué dans un communiqué que les deux dirigeants vont explorer des moyens pour réaliser pleinement le potentiel de la relation entre le Canada et la Chine. Publication du rapport de l'Ombudsman des vétérans, le document touche à l'indemnisation pour les vétérans et leurs survivants. Guy Parent demande ainsi que des améliorations soient apportées en regard de la nouvelle charte des anciens combattants. Il a déclaré que bien qu'aucune somme d'argent ne puisse les dédommager intégralement, les vétérans qui ont souffert d'une maladie ou d'une blessure doivent recevoir une aide juste. Le rapport compare les indemnités versées aux vétérans et à leurs survivants pour des pertes non financières avec celles que pourraient recevoir d'autres Canadiens dans le cadre de programmes fédéraux, provinciaux et territoriaux. On revient aujourd'hui sur le dossier des enregistreurs audiovisuels à bord des trains. Eh bien, si le Bureau de la sécurité des transports du Canada souhaite l'installation de ces appareils, la conférence ferroviaire des Teamsters a tenu à apporter un bémol. Doug Finson, le président de la conférence ferroviaire des Teamsters Canada, a dit que son groupe exigerait que le bureau soit le seul à avoir accès aux enregistrements. La conférence refuse, à l'inverse, que les compagnies ferroviaires puissent jeter un coup d'œil sur les données recueillies, car cela serait, selon l'organisme, une intrusion dans la vie des travailleurs. La Légion royale canadienne va ériger encore une fois cette année un mur virtuel d'honneur et du souvenir. Et pour la 5e année de suite, eh bien, le mur sera érigé à Ottawa. Dave Flanagan, le président de la Légion royale canadienne, a dit que c'est avec plaisir que nous offrons aux Canadiennes et Canadiens l'occasion de pouvoir s'exprimer de façon très personnelle. Les photos reçues seront ajoutées à plus de 1800 photos déjà recueillies. Elles seront exhibées le 11 novembre avant la cérémonie du jour du souvenir. C'est aujourd'hui et demain qu'a lieu la réunion publique de la Commission canadienne de sûreté nucléaire à Ottawa. Le personnel de la Commission doit présenter le rapport de surveillance réglementaire sur l'utilisation des substances nucléaires au Canada en 2015. Le rapport présentera aussi les résultats de l'évaluation du rendement en matière de sûreté de 1599 titulaires de permis autorisés par la Commission à utiliser les substances nucléaires dans les domaines médical, industriel, de recherche et commercial. Barack Obama a fait son dernier discours à l'ONU en tant que président américain mardi. Il a dénoncé la tentation à l'endroit du vote pour Donald Trump tout en lançant un message de prudence contre la puissance du populisme. Il a dit qu'un pays qui serait entouré de murs ne ferait que s'emprisonner lui-même. Le président démocrate a aussi parlé de la Syrie. Il a réaffirmé qu'il n'existait pas de solution militaire et a appelé à poursuivre le travail de la diplomatie, un travail difficile selon lui. Une pétition dans le dossier Énergie Est a recueilli jusqu'à présent 34 000 signatures. La pétition demande de faire des oléoducs une priorité nationale et selon le document, la majorité des signataires sont originaires de l'Alberta, centre nerveux de l'industrie pétrolière canadienne et sont en faveur du projet. Le gouvernement canadien a décidé de prolonger jusqu'au 9 novembre la période dite de clémence à l'égard de l'exigence relative à l'autorisation de voyage électronique. La période devait prendre fin le 29 septembre. Ottawa a déclaré vouloir ainsi donner aux voyageurs et aux compagnies aériennes plus de temps pour se préparer au changement. Ceux-ci doivent s'appliquer aux personnes qui viennent au Canada par avion ou encore qui y transitent. La nouvelle loi visera aussi ceux qui ont la double nationalité. Au sport au baseball majeur, eh bien, le classement dans l'Est de l'Américaine demeure inchangé suite aux victoires de Toronto et Boston. Les Jays affronteront à nouveau les Mariners de Seattle cet après-midi. Et au hockey et Coupe du Monde, le Canada défait les États-Unis 4-2. Avec cette victoire, la troupe de Mike Babcock s'assure une place en demi-finale. Pour les Américains, ils ne pourront accéder à la ronde éliminatoire. Ils joueront leur dernier match jeudi contre la République tchèque. Mentionnons aussi que la Suède a défait la Finlande 2-0. Cet après-midi, l'Amérique du Nord se mesurera à la Suède et le Canada affrontera ce soir l'Europe.
Bonjour. C'était les bulletins de Denis Lépine. Bienvenue dans le débrief 16h05 à l'antenne de CILS FM 107,9. On jette un petit coup d'œil à la météo. On a actuellement 21 degrés à Victoria du côté de l'aéroport à proximité de Sydney. Au centre-ville, c'est 19 degrés avec le soleil et à proximité de l'eau dans le port de Victoria, c'est 14 degrés. Pour les prochaines heures, ça demeure dégagé. Quelques nuages, un minimum de 10 en soirée. Pour demain, jeudi 22 septembre, un maximum de 17 avec le soleil. Le retour des nuages est prévu pour vendredi 23 septembre et le site météo.gc.ca nous indique de la pluie pour cette journée de vendredi avec un maximum de 16. Les nuages demeureront en place samedi et il n'y a pas de pluie au programme. Si l'on en croit le site d'Environnement Canada, on aura un maximum de 17 samedi et un petit peu plus loin dans le temps pour dimanche 25 septembre, un maximum de 21 degrés avec le retour du soleil. Voilà, donc on passe au bulletin de l'ONU tout de suite et on se retrouve de l'autre côté avec les nouvelles de Colombie-Britannique.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour cette nouvelle édition du journal de la Radio des Nations Unies. Avec à la une la réunion de haut niveau du Conseil de sécurité sur la Syrie. La suite du débat annuel de l'Assemblée générale, nous entendrons le président du Sénégal et le premier ministre canadien. Et puis après un détour par Haïti pour la journée de la paix, coup de projecteur avec la FAO sur la résistance aux médicaments antimicrobiens. La situation en Syrie est au point de rupture, c'est ce qu'a affirmé le secrétaire général Ban Ki-moon ce mercredi devant le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, et le secrétaire d'État américain John Kerry à l'occasion d'une réunion du Conseil de sécurité au cours de laquelle se sont multipliés les appels pour une reprise des négociations. Après le bombardement d'un convoi humanitaire lundi soir, Ban Ki-moon a appelé l'ensemble des 15 à user de leur influence pour raviver le cessez-le-feu, assurer la livraison de l'aide humanitaire, maintenir l'armée de l'air syrienne au sol et lancer des opérations militaires contre les groupes terroristes, le tout afin d'ouvrir la voie aux pourparlers politiques. Il n'en a pas moins reconnu la persistance d'autres défis.
Le destin d'aucun pays ne devrait dépendre du sort d'un seul individu. Si une partie continue d'insister que les pouvoirs du cabinet du président ne sont pas sujets à négociation, il ne peut y avoir, par définition, d'accord négocié. Et si une autre partie insiste pour le départ du président dès le début d'une transition, la tenue de véritables négociations sera difficile. Les parties vont devoir aussi rendre des comptes. Le gouvernement a bafoué les droits de l'homme de manière impitoyable. Des groupes de l'opposition ont fait de même. Et des groupes terroristes brandissent les images de leur cruauté devant l'opinion publique mondiale avec une jubilation perverse. Ne pas traduire en justice les auteurs de telle brutalité serait manquer gravement à son devoir. Cela dénierait toute justice et guérison aux Syriens et cela détruirait la crédibilité d'une communauté internationale qui prétend se préoccuper du maintien de notre humanité commune.
Suite du débat de l'Assemblée générale des Nations Unies, deuxième jour qui devait permettre d'entendre notamment la Chine, le Kenya, le Japon et parmi les rares francophones ce mercredi, le président du Togo. Mardi soir, du haut de la tribune, le président du Sénégal a plaidé pour l'accès à l'électricité en Afrique et pour que le continent dispose enfin d'un siège permanent au Conseil de sécurité. Macky Sall a aussi adressé une mise en garde contre le terrorisme et surtout contre les amalgames et le ciblage systématique des communautés et des pays musulmans.
Verser dans une islamophobie déraisonnée, c'est ajouter de la souffrance à la souffrance. C'est attiser le feu des antagonismes et exacerber le choc des civilisations dont rêvent les extrémistes de tous bords. Face à la menace terroriste globale qui nous concerne tous, le bon sens commande de coopérer pour vaincre le mal par une réponse globale, solidaire et concertée. Les valeurs qui nous rassemblent et font que chacun de nos peuples se sente de la famille des Nations Unies tiennent au fait que toutes les civilisations, toutes les cultures sont d'égale dignité.
Autre intervenant du débat général de l'Assemblée, le chef du gouvernement canadien, Justin Trudeau, qui a indiqué que son pays allait investir 2,6 milliards de dollars au titre de l'accord de Paris sur le climat, mais aussi que son pays a accueilli à bras ouverts 31 000 familles syriennes. Justin Trudeau qui a souligné l'importance pour les dirigeants d'écouter et de répondre aux inquiétudes de leurs concitoyens.
Nous allons tout faire pour bâtir une classe moyenne forte au Canada. Nous allons investir dans l'éducation parce que cela apporte à la prochaine génération les outils nécessaires pour contribuer à l'économie mondiale et pour réussir. Nous allons investir dans les infrastructures parce que ça crée de bons emplois bien rémunérés pour la classe moyenne et ça contribue à faire de nos communautés de meilleurs endroits pour vivre, travailler et investir. Nous sommes déterminés à bâtir une économie qui fonctionne pour tout le monde, pas seulement pour les 1% les plus riches, de façon à ce que chaque personne bénéficie de la croissance économique. Et nous allons refuser de céder à la pression d'échanger nos valeurs profondes pour des votes faciles. Le monde s'attend à plus de notre part et nous nous attendons à plus de nous-mêmes.
Choisis la paix, quitte pour racine en nous, en payant combien.
Et puis on termine ce bulletin en musique avec Voix Haïti pour la paix et la jeunesse d'Haïti qui chante la paix pour marquer officiellement ce 21 septembre la journée internationale de la paix. Les explications de Sophie Boudre, les chargées du plaidoyer à la MINUSTA, la mission de la paix de l'ONU en Haïti.
Haïti est un pays vraiment où les arts fleurissent. Donc en fait, quel meilleur moyen que de faire passer des messages, et notamment des messages de paix, que par la musique. Il y a un artiste, un grand artiste haïtien qui s'appelle Jem Germain, qui nous a contactés à la MINUSTA pour nous proposer une initiative originale. C'est-à-dire avec ses amis Emeline Michel et Bito Vaoba, qui est aussi un autre artiste haïtien, de la diaspora notamment. Ils sont allés à la rencontre des jeunes artistes haïtiens dans 10 villes d'Haïti. Ils ont mené pendant 3 jours dans chaque ville des ateliers d'écriture et de composition musicale pour la paix. Donc ensemble avec ces jeunes-là, ils ont créé des chansons pour la paix dans chaque ville. Ça a été suivi de concerts de restitution où les jeunes se sont produits aux côtés de ces grands artistes. Donc ça, c'était un projet financé par la MINUSTA l'année dernière, en 2015, dans le cadre de la campagne pour la réduction de la violence communautaire. Donc l'aboutissement, la demande des jeunes, évidemment, toutes ces chansons, ces messages de paix, ils voulaient les voir gravés sur un CD. Donc le CD qui s'appelle Voix Haïti pour la paix, les voix d'Haïti pour la paix en créole.
Vous écoutez un programme de la Radio des Nations Unies.
Retour sur l'actualité au siège. Les dirigeants se sont réunis ce mercredi en marge du débat général de l'Assemblée générale pour discuter du problème de la résistance aux antimicrobiens. C'est seulement la 4e fois qu'une question de santé fait l'objet d'une réunion de haut niveau à l'Assemblée générale après l'épidémie du VIH, les maladies non transmissibles et le virus Ebola. C'est dire l'ampleur de la menace pour la santé humaine et animale que pose la résistance aux antimicrobiens. Pour faire le point sur le phénomène, Muriel Sarr de la FAO s'est entretenu avec Ahmed El Idrissi. Il est fonctionnaire principal en santé animale à la FAO.
Les antimicrobiens sont des médicaments essentiels pour le traitement des maladies infectieuses, aussi bien en santé humaine que dans le secteur de l'élevage, de l'agriculture et aussi de l'aquaculture. Sauf que l'utilisation excessive ou non appropriée de ces médicaments peut entraîner dans certains cas l'apparition et la diffusion de pathogènes qui sont résistants à leur action, ce qui rend les maladies et les infections difficiles, voire même impossibles à traiter. Le problème, c'est que pendant les 20 dernières années, on a vu ce phénomène se développer de façon préoccupante. Donc il y a vraiment une inquiétude très importante. Parce que ce phénomène est mondial, planétaire, et vu la mondialisation, les échanges commerciaux, la rapidité des moyens de transport modernes et l'intensification de la production alimentaire, le phénomène de résistance aux antimicrobiens ne va que s'aggraver. Si la communauté internationale ne prend pas des actions urgentes et des mesures durables pour lutter contre cette menace croissante pour la santé mondiale.
Que savons-nous actuellement de la résistance aux antimicrobiens et quels en sont les impacts au niveau mondial?
D'abord, il y a le manque de moyens efficaces pour traiter les infections, aussi bien chez l'homme que chez l'animal. Selon certaines estimations, la résistance aux antimicrobiens serait responsable d'environ 700 000 décès par an dans le monde. C'est énorme. Et ce phénomène risque de s'aggraver si rien n'est fait. Dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage, les conséquences de la résistance aux antimicrobiens ne sont pas non plus négligeables. Mais les données manquent cruellement pour évaluer de façon précise cet impact. Ceci dit, il ne fait aucun doute que ce secteur, l'agriculture, l'élevage, contribue à la résistance aux antimicrobiens et aux répercussions imminentes de celles-ci sur la santé humaine. Donc il y a vraiment urgence à ce que les pays s'engagent pour la mise en place de mesures de surveillance et de suivi de l'usage de ces médicaments dans l'agriculture et l'élevage.
Que fait la FAO pour soutenir la campagne de lutte contre la résistance aux antimicrobiens?
Pour répondre à la menace croissante des pathogènes qui résistent aux médicaments dans les filières de production alimentaire, la FAO a mis en place depuis 2015 un plan d'action qui est multisectoriel et aussi multidisciplinaire pour combattre la résistance aux antimicrobiens, qui promeut le concept d'une seule santé pour une gestion intégrée et transversale de ce phénomène de la résistance aux antimicrobiens. La FAO travaille aussi dans un certain nombre de pays, notamment en Afrique et en Asie, à travers des projets et des programmes d'assistance technique, surtout pour sensibiliser les décideurs, les communautés et les parties prenantes, développer et renforcer les capacités des pays pour la surveillance des pathogènes qui résistent aux antimicrobiens et aussi le suivi de l'emploi de ces médicaments le long de la chaîne alimentaire. Et enfin, aider toutes les parties prenantes à appliquer des règles de bon usage de ces antimicrobiens et diminuer autant que faire se peut l'emploi de ces médicaments.
Voilà, fin de ce journal de la Radio des Nations Unies à retrouver sur l'Internet. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.
Merci d'écouter CILS FM 107,9. C'est Alexis Gagnon qui vous accompagne jusqu'à 17h dans le débrief. Il est tout juste 16h17 à l'antenne du 107,9 FM. On va passer aux nouvelles provinciales maintenant, si vous le voulez bien. On parle de la crise sanitaire des surdoses de drogue. La coroner en chef de la Colombie-Britannique a déclaré que la situation était exceptionnelle, sans précédent. Vous avez un article aujourd'hui dans le portail de CBC Colombie-Britannique qui fait état des propos tenus par la coroner en chef de la Colombie-Britannique, Lisa Lapointe, cette semaine lors d'une conférence de presse. Elle a déclaré qu'en dépit du nombre à la baisse de surdoses en Colombie-Britannique au cours du mois d'août, la province est quand même ferait erreur de relâcher la vigilance. Il n'est pas temps de s'asseoir sur ses lauriers. Au contraire, les baisses sont encore bien timides. C'est ce que dit en substance la coroner en chef de la province, Lisa Lapointe. C'est ce qu'elle a déclaré lors de cette conférence de presse tenue cette semaine. Entre janvier et août 2016, on a constaté malheureusement 488 surdoses ayant causé la mort dans la province de Colombie-Britannique. Il faut se souvenir que le total de l'année 2015 est presque dépassé. Donc en 2015, on avait déploré 505 décès par surdose de drogue. Donc il semble malheureusement, sans émettre de pronostic trop hâtif, que le total de l'année dernière va être dépassé. C'est ce qu'a laissé entendre Lisa Lapointe lors de cette conférence de presse. Donc, elle a appelé à maintenir la vigilance. Seulement 49 décès par surdose de drogue aux opioïdes ont été constatés au mois d'août. Donc, c'est beaucoup mieux que les 81 qui avaient été déplorés en janvier dernier. C'est peut-être le début d'une courbe qui s'apaise, qui redescend. C'est ce qu'on espère. La coroner en chef a indiqué que ces morts étaient souvent associées au fentanyl, bien sûr, et à la combinaison de cocaïne et fentanyl qui est particulièrement mortelle. Et bien sûr, le fentanyl est le grand coupable de ce phénomène des surdoses mortelles. La baisse du nombre de décès serait aussi aussi attribuable à l'introduction de la naloxone, qui est un antidote qui permet de renverser les effets peu de temps après la prise de fentanyl, donc de sauver la vie des toxicomanes. La naloxone est prescrite maintenant à plus grande échelle. C'était restreint jusqu'au mois de juillet, si ma mémoire est bonne. Donc, il semble que les premiers effets de cette mesure gouvernementale soient constatés là pour les données du mois d'août 2016. Donc, on va se croiser les doigts en espérant que le nombre de décès continue de baisser dans cette crise sanitaire des surdoses en Colombie-Britannique. Dans le média local Vic News, Victoria News si vous préférez, il y a un article fort intéressant aujourd'hui sur les fermiers urbains qui ont maintenant le feu vert du conseil municipal pour faire davantage de commerce et opérer ouvertement sans contrainte. C'est décrit entièrement dans un article publié sur vicnews.com. L'article s'intitule Urban Farmers Pleased with City Bylaw Changes. Donc il y a eu des modifications à la réglementation municipale qui permettent ces modifications de faire le commerce de sa production lorsqu'on fait de l'agriculture urbaine, en milieu urbain. Donc il y a deux autorisations qui seront maintenant à la portée des fermiers urbains. Une autorisation de vente sur place, donc à domicile ou à proximité, un peu à la manière d'un stand de limonade si vous voulez, et bien sûr une autre autorisation qui permet de vendre partout dans la municipalité auprès des restaurants et des détaillants. Alors, la maire Lisa Helps s'est dite réjouie de cette mesure qui a été adoptée au conseil municipal de Victoria et qui a fait de nombreux heureux parmi les adeptes d'agriculture urbaine et parmi ceux, bien sûr, qui souhaitent faire le commerce de leur production. Je vous parle à présent d'une étude qui a été rendue publique par le gouvernement de la Colombie-Britannique sur les emplois en haute technologie en Colombie-Britannique. Ce sont des constats qui vont peut-être en étonner plus d'un. On a encore tendance à croire aujourd'hui que l'économie de la province de Colombie-Britannique est fondée vraiment sur les ressources naturelles. Et il n'en est rien. En fait, en 2016, le secteur de la haute technologie emploie davantage de personnes que les mines, le pétrole, le gaz naturel et la foresterie. Et on parle des emplois combinés des secteurs que je viens de mentionner. Donc, la haute technologie emploie davantage de gens que tous ces secteurs réunis que j'ai cités. Alors, on parle de près de 100 000 personnes, donc 92 700 employés et un revenu de 26 milliards de dollars en 2014. C'est un des secteurs de haute technologie les plus évolués et les plus importants au pays, on s'en doute, et il continue de croître à raison de 3,3% par année, nous informe cet article publié dans le portail de CBC aujourd'hui. C'est un article qui rapporte les grandes observations effectuées dans cette étude publiée par le gouvernement ces derniers jours. Donc, si vous vous y intéressez, c'est un article qui s'intitule si vous tapez Vancouver Tech Jobs sur le portail de CBC, vous allez tomber dessus tout de suite, vous allez le trouver aisément. Et l'article ne concerne pas que les emplois de Vancouver, il concerne tous les emplois de la province de Colombie-Britannique. On tourne les pages maintenant du Times Colonist ici à Victoria. Il y a un article qui attire notre attention sur les pipelines. Les pipelines, bien sûr, font parler d'eux tous les jours. Le Times Colonist nous apprend que le gouvernement de Justin Trudeau a adopté une définition de l'acceptabilité sociale des projets, des grands projets énergétiques qui est différente de celle qui figurait dans son programme de campagne électorale l'année dernière, en 2015. Donc, de façon discrète, en catimini, si vous voulez, le gouvernement Trudeau a modifié sa définition de l'acceptabilité sociale des grands projets énergétiques. Ça n'a pas échappé aux journalistes du Times Colonist. C'est une définition, bien sûr, qui est un petit peu plus vague et qui laisse entrevoir un recul. De la part du gouvernement Trudeau qui avait affirmé en campagne en 2015, rappelez-vous, qu'il allait accorder un droit de veto aux communautés et aux municipalités dans les dossiers énergétiques. Et évidemment, cette nouvelle n'échappera pas à des villes comme Vancouver et Burnaby qui se trouvent à l'extrémité d'un pipeline en projet, le pipeline Trans Mountain, dont l'expansion fait l'objet d'une étude actuellement et est à l'étude. Et un comité est justement en train de rédiger un rapport sur ce projet d'expansion de pipeline. Alors, l'acceptabilité sociale a été modifiée par le gouvernement Trudeau. Il n'est plus question d'accorder de veto aux municipalités et aux communautés. C'est un changement assez important qui ne passera pas inaperçu. C'est dans le Times Colonist du jour, si vous voulez lire davantage là-dessus. On a aussi du côté du portail de Radio-Canada Colombie-Britannique un article en français sur le projet de réaménagement de l'édifice de la Maison de la Francophonie à Vancouver, un projet de réaménagement qui soulève des inquiétudes. Un promoteur immobilier suggère de détruire l'édifice de la 7e Avenue et de reconstruire la Maison de la Francophonie, en plus d'ajouter des condominiums. Le Centre culturel francophone de Vancouver, qui occupe le plus grand espace à l'intérieur de la Maison de la Francophonie, estime ne pas avoir suffisamment d'informations pour répondre aux questions de ses membres à ce sujet en vue du vote final sur le projet, vote qui est prévu en octobre. C'est un article que vous trouverez sur le portail de Radio-Canada Colombie-Britannique. On termine avec une nouvelle insolite, si vous voulez. C'est une nouvelle qui mélange sport et faits divers. Il est question d'un ancien joueur de la LNH, Dave Babich, qui réside désormais en Colombie-Britannique. C'est un ancien joueur de la LNH. Il a évolué notamment pour les Whalers de Hartford. C'est une équipe défunte de la LNH, mais ceux qui sont assez vieux pour se souvenir de la Coupe Stanley de 1986 remportée par le Canadien de Montréal, vous connaissez le défenseur Dave Babich. C'était un défenseur étoile des Whalers de Hartford. La série qui avait opposé les Whalers aux Canadiens avait été jusqu'en 7e match. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé à Dave Babich? On apprend sur le portail Journal de Québec et c'est un peu partout ailleurs dans les médias, qu'il est venu à la rescousse d'une adolescente qui avait chuté dans un ravin. Je vous lis quelques passages de cet article. Après une longue carrière passée à jouer les héros sur la glace, l'ex-défenseur de la Ligue nationale de hockey, Dave Babich, s'est distingué autrement la semaine dernière en portant secours à une adolescente, blessée en montagne. Vous trouverez cet article sur journaldequebec.com. On apprend que Dave Babich a descendu justement au creux du ravin et a récupéré l'adolescente qui avait heurté sa tête et l'a secouru et l'article laisse entendre qu'il lui a sauvé la vie. On va faire une petite pause musicale. On écoute un succès, le succès de l'heure à l'antenne de CILS FM, la chanson Motel 1755 de la formation Hey Babies. C'est le premier single d'un nouvel album qui va paraître dans quelques semaines. On écoute ça tout de suite et on se retrouve pour la nouvelle du jour.
Viens mon motel, j'ai la pizza et des bagels. Tu peux coucher sur mon sofa, tu peux sleeper in a dopa. Viens mon motel, t'as pas d'expliquer.
bien mon motel. J'ai la pizza et des bagels. Tu veux coucher sur mon sofa. Tu veux sleeper in ou dans le bien mon motel. T'as pas à t'expliquer. Maintenant ça va bien. Surtout quand ça va pas bien. Y'a des portes qui restent barrées. Des cendres qui soufflent. Y'a des TV qui jouent fort. Du monde qui s'engueule. Du monde qui prend des wake up calls. Juste pour que se réveiller seul. Ils viennent au moment.
Les Hey Babies dans le débrief, il est 16h31, merci d'écouter CILS FM 107,9, Alexis Gagnon avec vous jusqu'à 17h. L'info se poursuit dans le débrief, c'est le moment d'aborder la nouvelle du jour. On commence avec une nouvelle repérée dans le portail La Presse, lapresse.ca. C'est une nouvelle qui concerne la GRC, la Gendarmerie Royale du Canada, où des problèmes de harcèlement font encore surface et nuisent à l'image de la GRC. La ministre fédérale du Travail, Marianne Mihichuk, prévient que des modifications au Code canadien du travail pourraient être envisagées afin de lutter contre le harcèlement au sein de la Gendarmerie Royale du Canada. Dans une note interne que la presse canadienne a obtenue, on apprend que la ministre Mihichuk a demandé des précisions à de hauts fonctionnaires de la sécurité publique après avoir reçu un message d'une membre de la GRC qui soutenait que la police fédérale n'avait pas traité adéquatement ses plaintes de harcèlement sexuel par les mécanismes internes qui sont en place. La ministre du Travail demande maintenant des précisions sur les politiques, procédures et lignes directrices de la GRC en matière de harcèlement afin d'envisager la possibilité de modifier la partie 2 du Code du travail consacrée à la santé et à la sécurité. À l'entrée de la réunion du caucus libéral, aujourd'hui mercredi, Mme Mihichuk, géologue de métier, a indiqué qu'elle avait appris dans le secteur des mines qu'un milieu de travail traditionnellement réservé aux hommes peut être assez dur pour les femmes. Elle prévient qu'à titre de ministre du Travail, elle pourrait faire bouger les choses à la GRC. La note interne datée de février et lourdement caviardée révèle par ailleurs que le ministre de la Sécurité publique, Ralph Goodale, a aussi reçu une copie du courriel de l'agente de la GRC, mais aussi des messages et lettres de 17 autres personnes, dont des membres actuels ou anciens membres de la police fédérale qui relatent leurs histoires de harcèlement en milieu de travail ou de harcèlement sexuel. Il y a 2 mois, la GRC a mis en place une nouvelle initiative pour éliminer l'inconduite sexuelle en milieu de travail après la publication d'un rapport interne très critique sur la façon dont la GRC avait traité un cas flagrant survenu dans un collège de police. Le ministre Goodale a aussi nommé l'ancienne vérificatrice générale Sheila Fraser pour conseiller la GRC sur les façons de modifier ses procédures de traitement des plaintes. On parle maintenant des feux de forêt en Indonésie. On se déplace du côté de l'Asie du Sud-Est. Un papier paru dans le média indépendant Reporter.net, Reporter comme planète Terre. Chaque année, la forêt indonésienne, brûle, victime d'un défrichage sauvage pour faire place aux nets. Place nette aux cultures, notamment la culture de palmiers à l'huile. Les feux de l'an dernier ont été particulièrement dévastateurs, leur fumée toxique causant la mort de près de 100 000 personnes, selon une étude des États-Unis. Une étude des universités Harvard et Columbia vient de montrer que les incendies de 2015 en Indonésie, à Sumatra et à Kalimantan, qui ont produit des niveaux dangereux de pollution par la fumée dans une grande partie de l'Asie équatoriale, auraient causé 100 300 décès prématurés au niveau régional, 50 fois plus que l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans en 2005, pour un désastre entièrement causé par l'homme. Ces chiffres ridiculisent l'estimation précédente fournie par les gouvernements et les entreprises de déforestation qui parlaient d'environ 19 morts. Donc, entre 19 morts et 100 000 morts, il y a effectivement une différence. Les forêts tropicales, écrit un reporter, sont défrichées pour faire place à des cultures vivrières et à la monoculture de bois de plantation et de palmiers à huile, asséchant la tourbe qui a pris feu en 2015, alors qu'El Niño, le phénomène climatique, affligeait l'archipel d'Indonésie. Les incendies en résultant ont contribué pour 3% de la totalité des émissions mondiales de gaz à effet de serre pour l'année 2015 et ont coûté à l'économie indonésienne environ 16 milliards de dollars et détruit une partie de l'habitat d'espèces comme par exemple les orangs-outans. L'étude couvre 3 pays, l'Indonésie, la Malaisie et Singapour, qui auraient enregistré en 2015, donc respectivement 91 600 décès en Indonésie, 6 500 en Malaisie et 2 200 à Singapour. Cette étude produite par Harvard et Columbia pourrait permettre de prouver les dommages causés par la déforestation et la responsabilité des entreprises en vue de poursuites au civil et au pénal par les justice indonésienne, singapourienne et malaisienne. Alors le temps file très rapidement dans le débrief. Comme d'habitude, je n'aurai pas le temps de vous parler de cet article paru dans le portail Mediapart. Mediapart, c'est un média indépendant européen. Je vous cite le titre. Pakistan, Chine, Moyen-Orient, l'Inde opère un tournant diplomatique. Donc c'est un papier de plusieurs feuillets, un article de fond si vous voulez, sur la réorientation, le réalignement de l'Inde sur la scène diplomatique. C'est fascinant. Et ça fait suite justement à l'attaque terroriste qui a été perpétrée contre une base de l'armée indienne au Cachemire le dimanche 18 septembre. Une attaque donc qui a encore accentué justement ce réalignement de l'Inde dans le ballet diplomatique, le jeu diplomatique si vous voulez. Donc ce papier vous le trouverez sur mediapart.fr. Et il y avait bien sûr aussi cet article paru dans le portail Rue 89, dont je voulais vous toucher mot. Je vous cite le titre, vous pourrez le trouver aisément. L'addiction à Internet est souvent liée à d'autres dépendances. Article fort intéressant, donc sur la dépendance à Internet qui résulte d'autres dépendances, selon cet article paru dans le portail Rue 89. Autrement, toujours sur Reporter, dont je vous parlais il y a une ou deux minutes, reporter.net, il y a aussi un article qui vous encourage à utiliser d'autres moteurs de recherche que ceux de Google et de Yahoo. L'article s'intitule « Il n'y a pas que Google dans la vie ». Et c'est un article qui vous propose des solutions de rechange, des moteurs de recherche qui vous respectent davantage et qui ont justement des plans de monétisation fort différents, et certains permettent même d'amasser des fonds pour la recherche, l'éducation et l'environnement. Donc c'est à lire sur le portail reporter.net. On retourne en musique de ce pas. On va écouter une pièce de l'artiste Claude Pelgag qui s'intitule « Les ferrets fluide fleur », et on se retrouve tout à l'heure dans 2 minutes en fait pour la revue de presse.
Je ne peux pas. aux animaux.
Excellente pièce de Claude Pelgag dans Le Débrief. Il est 16h41 et des poussières. Vous êtes à l'antenne, bien sûr, de CILS FM 107,9. Le Débrief se poursuit jusqu'à 17h. C'est l'heure de la revue de presse des éditos. Je vous parle d'un édito paru dans Le Devoir sous la plume de Brian Miles. Ça concerne, ça porte sur le lanceur d'alerte Edward Snowden, connu mondialement maintenant. Il est en exil en Russie. Actuellement, il fait l'objet d'un film qui est sorti sur les écrans il y a quelques jours. Donc, le titre de Brian Miles pour cet édito paru dans Le Devoir, c'est « Snowden dans l'impasse ». Et ça concerne, ça touche particulièrement un édito qu'avait publié le Washington Post. Je vous lis quelques passages. « Le Washington Post a largué son plus célèbre lanceur d'alerte depuis Deep Throat en reprochant à Edward Snowden d'avoir compromis la sécurité nationale. Le quotidien fait reculer le journalisme d'enquête avec cette position, même si elle est nuancée. En marge de la sortie du film d'Oliver Stone sur la vie d'Edward Snowden, ce spécialiste de la sécurité informatique qui a divulgué une avalanche de documents confidentiels de l'ultra-secrète National Security Agency, la NSA, un mouvement international, réclame qu'il soit gracié par le président Obama, donc qu'il soit pardonné, autrement dit. Trois médias qui ont collaboré avec le lanceur d'alerte, The New York Times, The Guardian et The Intercept, militent pour qu'il obtienne ce pardon, Edward Snowden. Le Washington Post, principal bénéficiaire des secrets de Snowden, fait figure d'exception en calquant désormais le discours des hauts gradés de la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Pas de pardon pour Edward Snowden, titrait le Post en éditorial samedi dernier. Il n'est pas dans l'habitude du journal Le Devoir de critiquer l'éditorial d'un autre journal, mais la position défendue par le vénérable quotidien Washington Post est à ce point dommageable pour le journalisme d'enquête et la protection des sources qu'elle mérite d'être condamnée. Brian Miles, auteur de ce papier dans Le Devoir, poursuit « Le Post ne reproche pas à Snowden d'avoir coulé des documents confidentiels sur le programme de collecte de métadonnées téléphonique de la NSA, sur lequel le quotidien s'est basé pour mener une série d'enquêtes lui ayant valu un prix Pulitzer pour service public. Les révélations de Snowden étaient à ce point dommageables que le gouvernement s'est résigné à circonscrire la collecte de métadonnées par la NSA en juin 2015 avec l'adoption de l'USA Freedom Act. Donc c'est un petit peu opaque là comme paragraphe, mais en gros ce que Brian Miles dit, c'est que le Post a été nuancé. Il n'a pas reproché à Snowden d'avoir coulé certains documents qui révélaient la collecte indiscriminée. Le Post reproche à Snowden d'avoir révélé certains programmes d'espionnage international. Mais selon Brian Miles et l'immense majorité des journalistes et spécialistes des médias, ce papier du Washington Post est tout de même dommageable pour le journalisme et le droit à l'information. Donc Brian Miles poursuit, je vous lis quelques autres passages. Comme le souligne le journaliste d'enquête Glenn Greenwald, qui a mis l'affaire Snowden au monde dans The Guardian et dans The Washington Post, le Washington Post est le premier quotidien à exiger des poursuites criminelles contre sa propre source. Donc, on n'avait jamais vu ça, un quotidien, donc un journal qui propose des poursuites criminelles contre sa propre source. C'est assez roué, c'est assez retard. Et Brian Miles poursuit, Snowden n'a jamais rien publié de lui-même. Donc, rappel important, les médias, dont le Washington Post, portent le fardeau de ce crime, entre guillemets. Et Brian Miles se demande justement si les journalistes qui ont donné vie à l'affaire Snowden mériteraient eux aussi d'être poursuivis en justice. L'éditorial du Post est une trahison du rôle historique joué par les médias privilégiant le journalisme de qualité, écrit Brian Miles dans cet éditorial publié dans le journal Le Devoir aujourd'hui en date du 21 septembre. Ça s'intitule Snowden dans l'impasse. Notons que Brian Miles sait de quoi il parle. Il a été à la tête de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec pendant quelques années. Je crois qu'il en était le président pendant 3 ou 4 ans. Les questions de droit à l'information, de liberté de presse, l'intéressent vivement. Donc, c'est un papier que je vous recommande dans le journal Devoir, de Le Devoir, en date d'aujourd'hui. Toujours dans Le Devoir, il y a un texte dans les pages éditoriales qui s'intitule « Gérer les déceptions » et ça porte sur les dures décisions que devra prendre le gouvernement de Justin Trudeau. Il y aura des carrefours importants cet automne, des décisions qui vont justement faire des mécontents. Et donc, je vous lis quelques lignes de ce papier intitulé « Gérer les déceptions ». La liste de ce qui doit aboutir au cours des prochains mois à Ottawa est imposante. Plan de réduction des gaz à effet de serre, projet de pipeline, réforme électorale, entente fédérale-provinciale sur les transferts en santé, soutien aux autochtones, légalisation de la marijuana, mission de paix et de stabilisation en Afrique. N'en jetez plus, la cour est pleine. Dans tous ces cas, trancher va vouloir dire mécontenter. Et l'auteur poursuit en décrivant plus en détail certains dossiers, dont le dossier du pipeline Trans Mountain de la compagnie Kinder Morgan qui doit relier l'Alberta au port de Burnaby dans la grande région de Vancouver. Donc un pipeline dont l'expansion permettrait de tripler la capacité. C'est un pipeline qui est fortement contesté, vous le savez. Donc, l'auteur revient sur ce dossier et bien d'autres. Tous ceux que j'ai cités dans les premières lignes du texte, vous trouverez ce papier dans le journal Devoir. Le Devoir, c'est intitulé « Gérer les déceptions ». Et je remets à demain cette chronique d'Yves Boisvert parue dans la presse, fort intéressante sur les retards en justice qui deviennent vraiment très inquiétants. Les juges prennent trop de temps à délibérer et à rendre justice. Et c'est malheureusement les justiciables qui en font les frais. Ceux-ci doivent attendre des délais invraisemblables pour connaître l'issue de leur cause. Et Yves Boisvert parle de cette tendance qui se déclare chez les juges de partout au Canada. Les juges qui traînent leurs pieds, si vous voulez. Donc, on en parlera plus en détail demain. Je garde ce texte et je vous en parle demain. On va aller dans quelques instants à l'interview du jour. Je vous le disais en ouverture d'émission. Nous allons rejoindre à Ottawa le député de Victoria à la Chambre des communes, le néo-démocrate Murray Rankin, qui est en deuxième mandat. Nous allons parler avec lui de réforme électorale, de réforme du scrutin. On va parler de proportion proportionnel. On a actuellement un système first past the post, comme on l'appelle en anglais, qui fait de nombreux mécontents, surtout chez les partis minoritaires. Donc on parle de tout cela dans quelques instants dans le débrief. Restez à l'écoute. Merci. Vous êtes dans l'émission Le Débrief à l'antenne de CILS FM 107,9. On parle à présent dans l'interview du jour de réforme électorale à l'échelle canadienne. C'est un sujet qui occupe actuellement la colline parlementaire. Il y a un comité spécial qui a été réuni par le gouvernement Trudeau. Vous vous souviendrez sans doute que la réforme électorale, c'est une promesse des libéraux lors de la campagne de 2015. J'ai la chance d'avoir au bout du fil, M. Murray Rankin, qui est le député de Victoria. C'est un représentant du NPD qui a été très impliqué dans cette question de la réforme électorale. Bonjour, M. Rankin.
Bonjour, Axie. Bonjour.
Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu le dossier de la réforme électorale et la position du NPD?
Donc, j'espère qu'on va comprendre que nous autres, les néo-démocrates, se battent pour un système électoral plus juste et plus proportionnel depuis des années. C'était aussi une promesse du Parti libéral lors des dernières élections, il y a presque un an maintenant. Leur plateforme comprend un promis de faire un changement dans notre système électoral pour le rendre plus juste. Et je crois que le plus grand parti des Canadiens sont d'avis que le statu quo est injuste et que le Parlement du Canada doit refléter le vote des électeurs.
Est-ce que vous avez un bon espoir que le gouvernement va livrer la marchandise?
Bonne question. Ça, c'est la question qui compte, n'est-ce pas? J'espère que oui, je reste optimiste. Et on a des réunions un peu partout dans le pays. Nous autres, à Victoria, on avait une assemblée publique, l'école secondaire de Victoria.
Oui.
C'était un grand foule de qui assistait journée, je crois, le 7 septembre, je crois que c'était la date, et c'était plein de monde qui était très passionné là-dessus. Et moi, je crois que le Parti libéral a fait une promesse et j'espère qu'on va la garder. On ne sait pas à ce moment-ci parce que les autres croient que peut-être le système qu'ils préfèrent ou qui préconise M. Trudeau, le système qu'on appelle le scrutin préférentiel sera juste. Nous autres, nous ne croyons pas que ça sera juste. On préfère, nous autres, un système de représentation proportionnelle mixte.
Oui.
Et on va voir si c'est ça le système, si c'est ça le système que le gouvernement va appuyer. Je sais pas à ce moment-là si c'est ça ce qu'il va appuyer. J'espère que oui.
Alors, actuellement, on a un système qui s'appelle le système uninominal majoritaire, qu'on appelle joliment en anglais « first past the post ». Quel est le système que vous préférez? Est-ce que vous pouvez le décrire, le système idéal que vous souhaitez?
Mais vous avez raison, le système actuel qui est une partie de notre système électoral de nation, ce qui s'est passé lors de l'élection de M. Harper et à l'élection de M. Trudeau, c'est-à-dire qu'il y avait un pourcentage de vote populaire qui représente moins de 40% des électeurs et qui leur ont donné une majorité énorme dans le Parlement. Ce n'est pas juste.
Voilà.
C'est-à-dire que la plus grande partie de la population n'ont pas voté pour le Parti libéral. Alors, ce n'est pas juste, et c'est ça ce qu'on veut changer. Ce que nous voulons faire, c'est un système qui vous donne deux votes, un vote pour le député local, et une deuxième fois, un vote pour les régionales. Alors, cela entraîne des résultats proportionnels tout en assurant le maintien d'une représentativité géographique. Donc, je sais le système en Europe, en Nouvelle-Zélande, un peu partout dans le monde, et je crois que ça serait beaucoup plus juste. Et il faut dire que si on regarde de près les systèmes électoraux là-bas, qu'il y a beaucoup plus de femmes, beaucoup plus de gens qui s'occupent de l'environnement, et il y a aussi instabilité.
Oui.
Qui opposent ce système, disent « Oh non, ça va rendre un système moins stable. » Mais franchement, si les hommes politiques, ceux qui font la science politique ont démontré que ce n'est pas exactement ça, c'est l'inverse, enfin.
D'accord. Il y a quand même des systèmes où plusieurs observateurs disent qu'il y a trop de proportionnalité, comme en Italie, par exemple. Est-ce que vous avez étudié le cas italien?
Oui, c'est vrai. Il y a des systèmes. Il faut avoir un système. C'est ça ce qui compte, n'est-ce pas? Un peu, parce que tous les pays sont différents. Nous avons un pays vaste avec les différences linguistiques, représentation des autochtones, représentation hommes et femmes. Il y a les problèmes, les défis dans notre système. Alors, ce qu'on veut faire, c'est un système, créer un système qui répond aux Canadiens.
D'accord. Est-ce que le système écossais ou encore le système qui prévaut en Allemagne vous intéresse?
Peut-être étudier le comité mixte parlementaire qui maintenant, je crois aujourd'hui, est à Winnipeg, en fait un grand tour du pays, en fait à Nunavut et puis au Québec et en Colombie-Britannique il y a quelques semaines, et on écoute les Canadiens. Et je ne sais pas si le système d'Allemagne va être préféré, mais on va avoir les recommandations de ce comité, de tout parti, le Bloc québécois, les Verts, les libéraux sont représentés sur ce comité, et j'espère qu'on va faire une recommandation qui crée un consensus dans le comité et que le gouvernement peut mettre en vigueur.
D'accord. Merci, M. Rankin, pour ces propos très instructifs, très éclairants sur la position du NPD et sur la réforme électorale qui peut-être aboutira justement à des mesures concrètes de la part du gouvernement Trudeau. En terminant, est-ce que vous avez des informations à transmettre à vos électeurs de Victoria concernant le leadership du NPD, la situation de la chefferie dans le parti? Est-ce qu'il y a du nouveau dans ce dossier?
Vraiment, on avait un truc important à Montréal la semaine passée. On avait une espèce d'unité dans notre caucus dont je suis très fier.
Oui.
Et je crois dans les semaines qui viennent, on va avoir des annonces, des hommes et des femmes qui veulent devenir notre prochain chef. Et je crois qu'il y aura beaucoup de candidats assez qualifiés et bien qualifiés. Et on va voir ce qui se passe, mais je suis très confiant et je suis très fier du parti actuellement.
Est-ce que vous faites partie de ces candidats?
Je crois que non, mais c'est... Non. Je crois qu'il y a beaucoup à faire dans mon comté.
Oui.
Et je vais rien comme le porte-parole de la justice. Donc, je vais essayer de faire tout ce que je peux là-dessus.
D'accord. Un grand merci pour cet entretien depuis votre bureau d'Ottawa où vous participez bien sûr aux travaux de la colline parlementaire. Au plaisir de se retrouver en personne plus tard, peut-être avant la fin de l'année, à Victoria.
Bien sûr.
D'accord. Merci, Monsieur Rankin.
Merci, Alexis.
C'était Murray Rankin, député néo-démocrate de Victoria. Nous l'avons joint à Ottawa un petit peu plus tôt aujourd'hui, Monsieur Rankin, qui repassera sans doute nous voir en studio à CILS un peu plus tard cet automne. Voilà, c'est déjà tout pour le débrief. Merci d'avoir passé cette heure d'info avec nous. On va se retrouver demain, même heure, toujours 16h. Et si vous nous écoutez en rediffusion, en matinée, merci de nous avoir suivis également en rediffusion. On se laisse avec la formation JAG, une pièce jazz qui ferme maintenant l'émission presque tous les jours, et on se dit à demain. À très bientôt.